Voilà. Je vous invite à quelques secondes de prière et puis on va continuer. Seigneur, nous reconnaissons notre besoin. Nous ne venons pas devant toi comme des sachants, nous venons devant toi comme des personnes qui ont besoin de toi, de ta grâce, de ta présence, de ton œuvre dans nos cœurs, dans nos vies, de l'œuvre de ta parole en nous. Et c'est pour ça que nous voulons, Seigneur, prendre ce temps ensemble pour écouter ta parole. Et Seigneur, nous voulons te prier pour que tu bénisses ces instants et que tu t'adresses à nous, que tu t'adresses à nos cœurs par ton Saint-Esprit. Qui que nous soyons, Seigneur, finalement, quel que soit ce que nous sommes, où nous en sommes, instruis-nous, parle-nous, éclaire-nous et sois toi au cœur de ces instants. Préside à toutes choses et que ces temps soient des temps où nous tournons notre regard vers toi. Bénis-nous, bénis ce temps et permets-nous, Seigneur, de pouvoir encore avancer avec toi dans ta présence. C'est notre prière que nous t'adressons au nom de Jésus. Amen. J'espère que avoir l'occasion de vivre ce culte en présentiel pour ceux qui sont là, ça vous apporte déjà un plus de pouvoir bénéficier de tout cela et de ces instants. Alors sans plus tarder, nous allons continuer notre parcours dans Job pour ceux qui ont suivi les derniers cultes et arriver tout doucement à la fin du livre de Job. Alors c'est un livre qu'on pourrait étudier beaucoup plus en longueur, il y a beaucoup de choses à dire, mais on a préféré un peu prendre des petites scènes et s'y arrêter. Donc on va lire un premier texte dans Job chapitre 40. Pour ceux qui ont des Bibles ou pour des autres, il y a la projection. Et là, c'est vraiment parfait. Hein, au niveau luminosité, c'est parfait. Donc, Job chapitre 40, versets 1 à 19. On va commencer par lire cela et ensuite, on va continuer dans Job chapitre 42. Job 40, où il est écrit: L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Alors, pour ceux qui étaient là la semaine passée, c'est la même expression qui commence que dans l'autre chapitre. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « S'interrin comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit? As-tu un bras comme celui de Dieu, une voix tonnante comme la sienne? Orne-toi de magnificence et de grandeur. Revêt-toi de splendeur et de gloire, répands les flots de ta colère et d'un regard, abaisse les hautains, d'un regard humilie les hautains. Écrase sur place les méchants, cache-les tous ensemble dans la poussière. Enferme leur front dans les ténèbres, alors je rends hommage à la puissance de ta droite. Voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf, le voici. Sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre, les nerfs de ses cuisses sont entrelacés, ses os sont des tubes d'airain, ses membres sont comme des barres de fer. Il est la première des œuvres de Dieu. Celui qui l'a fait l'a pourvu d'un glaive, il trouve sa pâture dans les montagnes où s'ébattent toutes les bêtes des champs. Il se couche sous les lotus au milieu des roseaux et des marécages. Le lotus le couvre de leur ombre, les saules du torrent l'environnent, que le fleuve vienne à déborder, il ne s'enfuit pas, et que le Jourdain se précipite dans sa gueule, il reste calme. Est-ce à force ouverte qu'on pourra le saisir? Est-ce au moyen des filets qu'on lui percera le nez? Et un autre texte dans le même livre, dans Job chapitre 42, et là nous lisons les versets 1 à 6. Alors, on est au dernier chapitre du livre, on est au dernier moment, avant l'épilogue. Et là, il est dit, Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. » Des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Amen. Alors, le texte de Job 40 qu'on vient de lire, c'est le texte qui est le deuxième discours de Dieu. Donc, je rappelle que dans le livre de Job, les amis de Job et Job discutent pendant tout un temps autour de la souffrance de Job pour essayer de comprendre pourquoi Job souffre. Et pendant tout ce temps, Dieu se tait. Dieu ne dit rien à la souffrance de Job. Dieu n'explique rien. Dieu ne parle pas. Et à la fin du livre de Job, dans Job 38, 39, 40, Dieu s'exprime à Job. Dieu interpelle Job. Et on l'a vu la dernière fois, dans le premier discours de Dieu, Dieu pose à Job toutes sortes de questions auxquelles Job ne sait pas répondre. Sais-tu, as-tu déjà commandé au matin? Sais-tu où sont les fondations du monde? Sais-tu tout un ensemble de questions qui ont pour but, on l'a vu la dernière fois, de montrer à Job que Job n'est qu'un humain et que Dieu est Dieu. De montrer que Job ne maîtrise rien, n'a pas la sagesse de Dieu, n'a pas la compréhension de Dieu. Et dans le deuxième texte, dans le deuxième discours de Job 40 que nous avons lu, là Dieu va continuer en fait à montrer la même chose à Job. Dieu va continuer à montrer à Job qu'il est Dieu et que Job n'est qu'un humain. Et il va utiliser pour cela l'exemple de deux animaux, l'hippopotame et le crocodile. Alors bon, vous avez déjà tous vu ces animaux-là, mais la caractéristique de ces animaux, c'est des animaux entre guillemets indomptables. Donc l'hippopotame, c'est un animal extraordinaire, le crocodile, ce sont des animaux impressionnants. Et ce que le texte que nous avons lu montre, c'est qu'en fait, pour Dieu, un hippopotame, un crocodile, ce n'est rien. Pour un humain qui se retrouve dans une situation comme ça, l'humain va être perdu, mais pour Dieu, ce n'est rien. Et donc, Dieu continue à montrer à Job qu'il est Dieu. Nous avions parlé de l'importance de laisser Dieu être Dieu, pour nous aussi dans nos vies, de reconnaître que Dieu est Dieu, de comprendre ce que ça signifie et de ne jamais l'oublier. Et le texte de Job 42 que nous avons lu, là c'est vraiment la réponse finale de Job. Après que Job ait parlé avec ses amis, qu'il ait parlé de sa souffrance, après que Dieu se soit adressé à lui, Job va faire une réponse finale. Ce sont ses dernières paroles. C'est un moment très intense, Job 42, que nous avons lu, les versets 1 à 6, parce que c'est vraiment l'attitude finale de Job, et c'est une attitude de maturité. Alors que Job a eu des moments où il a dit que Dieu est injuste, il a eu des moments où il a dit qu'il ne comprenait plus rien, il a eu un moment, comme vous l'avez vous rappelez, où il a demandé des comptes à Dieu, il a dit « Viens t'expliquer sur ma souffrance, viens t'expliquer, dis-moi ». Alors qu'il a eu des moments où, si vous lisez tout le livre, et je suis sûr qu'après ça, vous allez lire tout le livre avec grand plaisir, si vous lisez tout le livre, Job parle beaucoup. Mais là, il va faire une réponse très courte, mais une réponse très profonde, qui montre une maturité. En fait, Job a grandi dans l'histoire du livre de Job. Et il y a même un commentateur qui parle, il dit au début, Job est à l'école maternelle, et puis il est à l'école primaire, et dans Job 42, il est à l'université. Il est mature, il est grand, c'est un adulte, il a compris. Il a compris qui est Dieu, il a compris sa place, il a évolué, il a grandi. Et nous aussi, on est appelés tous à devenir de plus en plus matures. Et dans notre chemin avec le Seigneur, il nous amène à comprendre des choses, à grandir, pour à un moment donné devenir des adultes devant la face de Dieu. Et donc, la réponse de Job 42, il y a trois grands éléments, trois grandes dispositions de cœur que l'on voit chez Job. Premièrement, on l'a vu, dans la lupe plutôt, Job reconnaît la sagesse et la puissance de Dieu, premièrement. Job reconnaît la puissance et la sagesse de Dieu. « Je reconnais que tu peux tout, dit-il, et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Deuxièmement, Job reconnaît ses propres limites en tant qu'humain. Il reconnaît ses limites. Il reconnaît qu'il n'est qu'un homme. Et puis troisièmement, Job se repent de son attitude. Il demande pardon pour son attitude. Et il manifeste une attitude d'adoration. Ce matin, nous voulons nous interroger sur cette attitude de Job, dans Job 42. Et autour du titre, finalement, de cette prédication, « Quand Job baisse les armes ». Job 42, c'est « Quand Job baisse les armes ». Alors qu'il a résisté, qu'il a essayé de comprendre, qu'il s'est battu, il n'oppose plus de résistance, il se soumet, parce qu'il a compris un certain nombre de choses. Alors, il est vrai que la souffrance auquel Job a été confronté, elle est horrible et personne ne la voudrait. Mais malgré tout, l'attitude de Job a des choses à nous apprendre pour nous et pour tout humain qui veut se présenter devant Dieu. Ce livre a plein de choses à nous apprendre. Premièrement, Job reconnaît la toute-puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Il dit « Je reconnais que tu peux tout ». Et il reconnaît que Dieu a une sagesse infiniment au-dessus de la sienne. Job reconnaît que rien ne peut s'opposer au plan de Dieu, que la sagesse de Dieu est insondable. Il reconnaît que Dieu est sage au-dessus de tout, au-dessus de tout ce qu'on peut penser, tout ce qu'on peut imaginer, et que quels que soient les plans que lui, il peut faire, ou les idées qu'il peut avoir, Dieu est bien au-dessus de tout cela. Il est intéressant de noter que Job dit ça alors qu'il n'a toujours pas d'explication à sa souffrance. Vous lirez après l'épilogue de Job, en rentrant chez vous, c'est la première chose que vous ferez, tellement vous aurez envie de savoir la fin, hein. Et dans Job 42, en fait, on nous explique comment Job, mais je ne vais pas vous le dire à l'avance, sinon vous n'aurez pas envie de le lire. Surprise. Mais en tout cas, jusqu'à la fin, Job n'a pas d'explication sur pourquoi il a souffert. Il ne sait pas, Dieu ne s'explique pas. Mais malgré tout, Job va lui faire cette réponse dans laquelle il reconnaît la puissance de Dieu. Et implicitement, Job aussi reconnaît la justice de Dieu. Alors qu'il a clairement dit que Dieu était injuste, puisqu'il se retrouvait dans cette situation-là, Job implicitement va reconnaître que Dieu est sage, que Dieu est puissant et que Dieu est juste, même quand il ne comprend rien. Même quand il n'a pas d'explication, même quand il ne maîtrise rien à ce qui lui arrive, Job prend Dieu pour ce qu'il est. Job prend les attributs de Dieu pour ce qu'ils sont, indépendamment de ce qu'il peut en comprendre. Tu es juste, Seigneur. Tu es sage, Seigneur. On pourrait dire que dans ce texte, Job prend Dieu pour ce qu'il est. Job prend Dieu pour ce qu'il est. Ça vous est tous arrivé certainement d'être pris pour ce que vous n'êtes pas. Personne n'aime ça, être pris pour ce qu'on n'est pas. On n'aime pas qu'on nous traite de menteur quand on est quelqu'un qui dit la vérité. On n'aime pas qu'on nous traite de voleur quand on est quelqu'un qui ne vole pas. On n'aime pas qu'on nous traite de paresseux quand on est un travailleur. On n'aime pas. Personne n'aime. Tout le monde a envie d'être pris pour ce qu'il est. Eh bien, c'est un peu ça. Job en arrive finalement à prendre Dieu pour ce qu'il est et à recevoir Dieu dans ce qu'il est, alors qu'il avait par moments, parce que précisons que Dieu ne fera aucun reproche à Job. Mais par moments, Job ne comprend pas trop, il est perdu, il souffre en fait, mais il va prendre Dieu pour ce qu'il est. Et nous aussi, on est appelés à prendre Dieu pour ce qu'il est. À rencontrer Dieu dans ce qu'il est réellement, indépendamment de ce que nous pouvons parfois comprendre. Il nous arrive, comme on l'a vu, de prendre Dieu pour ce qu'il n'est pas. Il nous arrive de prendre Dieu comme notre serviteur. Dieu doit répondre à mes besoins. Je suis le centre du monde et Dieu doit s'occuper de moi, il doit répondre à mes besoins. Alors indépendamment du fait que Dieu promet de le faire, Dieu promet de le faire. Mais malgré tout, ça ne doit pas nous faire oublier que lui, il est Dieu et que c'est nous qui sommes à son service. Dieu prend la décision de nous aimer, de prendre soin de nous bénir, de nous accompagner, mais il est Dieu. Il n'est pas pour autant à notre service. C'est nous qui sommes à son service. C'est nous qui sommes en adoration devant lui. Il nous arrive aussi de prendre Dieu comme un être limité. Parfois, dans notre vie, on prend Dieu comme quelqu'un, comme un homme qui ne voit pas, qui ne sait pas, qui n'agit pas. On considère un peu Dieu comme un être sans limite, ou parfois même on minimise la puissance de Dieu face aux forces des ténèbres. On prend Dieu comme un... Oh oui, on ne sait pas trop, c'est un petit Dieu. On ne prend pas Dieu pour ce qu'il est, souvent. Ça nous arrive. Si vous pensez à votre vie de prière, aux choses que vous demandez à Dieu, à la façon dont vous vous approchez de Dieu, ou parfois on prend Dieu pour un petit Dieu de rien du tout. Parfois, il nous arrive de prendre Dieu comme un objet qu'on pourrait maîtriser, dont on pourrait connaître toutes les dimensions, comme un objet qu'on prend dans sa main en disant « il est comme ça, je le maîtrise, je le mets où je veux ». On a parfois ce genre de réaction. Ou parfois, on peut aussi prendre Dieu comme un être de folie, comme si Dieu était fou. Comme si Dieu ne savait pas ce qu'il fait quand il conduit le monde ou quand il conduit nos vies, comme si il agissait pour notre mal, comme si Dieu était malveillant vis-à-vis de nous. Ou parfois aussi, il nous arrive de considérer Dieu comme s'il était dépassé par les événements. Comme si Dieu était tout perdu quand il arrive quelque chose. Oh, une pandémie, qu'est-ce que je vais faire? En réalité, Job déclare qu'il reconnaît que Dieu est Dieu. Je reconnais que tu es Dieu, Seigneur. Tu es le Créateur, tu es l'autosuffisant, tu es l'Éternel, tu es le Très-Haut, tu es le Tout-Puissant, tu es le Dieu à la sagesse infinie. Malgré mes questions, malgré mes doutes, malgré mes incompréhensions, je reconnais que tu es Dieu. Et je me soumets à ta Seigneurie. Voilà la réponse de Job. Je reconnais que tu es Dieu. Et l'idée, on va le voir juste après, c'est de quitter la théorie sur Dieu pour en arriver au vécu avec Dieu. Quitter la théorie sur Dieu pour en arriver au vécu avec Dieu. Deuxièmement, dans ce texte, dans la confession de Job, dans Job 42, Job reconnaît ses limites devant Dieu. Il reconnaît ses limites devant Dieu. Il reconnaît qu'il est limité, qu'il est un être avec des limites. Job va dire une phrase extraordinaire qui vous a tous surpris, qui vous a tous ébahis, tellement elle est profonde. Il va dire, la troisième partie du verset 3, ou la deuxième partie du verset 3, « Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. » Ou en d'autres termes, une autre traduction, c'est « J'ai parlé de choses trop grandes pour moi. » Job dit ça. Ça vous est déjà arrivé dans votre vie de dire « Mais Seigneur, j'ai parlé de choses trop grandes pour moi. Qui est-ce que je suis, moi, pour parler de ça ?» Voilà ce que Job a dit. « J'ai parlé de choses trop merveilleuses. » Ou le texte dit aussi « De choses trop élevées pour moi. J'ai parlé de merveilles qui me dépassent et que je ne peux pas concevoir. » En réalité, rappelez-vous qu'au début du texte, Dieu lui dit « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ?» En d'autres termes, pour le dire en termes que tout le monde comprend, mais pour qui tu te prends pour critiquer ma volonté? C'est ça qu'en fait Dieu lui dit. Qui tu es, toi, être sans intelligence, pour critiquer ma sagesse? C'est un petit peu ça. Et Job, en fait, dans cette réponse, il reconnaît, en fait. Il dit « Ben oui, c'est vrai. En fait, j'ai parlé de choses trop merveilleuses pour moi. Je me suis attaqué à des choses qui me dépassent. » Il reconnaît que le reproche de Dieu à son égard est tout à fait juste et qu'il a parlé de choses qu'il ne connaissait pas. Dans les psaumes, dans le psaume 139, il est dit « Une science aussi merveilleuse au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. » Voilà comment le psalmiste parle de la sagesse de Dieu, de la connaissance de Dieu. « Une science au-dessus de ma portée est trop élevée pour que je puisse la saisir. » Parfois, on ne se rend pas compte. Et comme on l'avait vu, on croit, nous comme humains, on croit que notre logique est infaillible. On croit que les plans qu'on conçoit dans notre tête sont bons, sont justes, sont sages, qui tiennent bon du début jusqu'à la fin. Et quand nos plans sont confrontés au plan de Dieu, alors on oublie un petit peu nos limites. Mais Job reconnaît ses limites dans ce texte. Job reconnaît les limites de son intelligence. Je ne comprends pas tout, Seigneur. Je ne sais pas tout. Je ne vois pas tout. Je ne maîtrise pas tout. Job reconnaît les limites de ses raisonnements. Mes raisonnements sont limités. Et même les raisonnements les plus savants qu'il y ait sur la terre, de tous ces grands philosophes et autres qui ont écrit sur Dieu, qui ont fait des grandes philosophies, tous ces raisonnements n'ont aucune valeur devant Dieu. Vous savez qu'il y a des traités d'athéisme de 400-500 pages, des gens qui écrivent des livres énormes pour expliquer que Dieu n'existe pas, pour expliquer que Dieu est mort, ou que Dieu est l'opium du peuple, ou que Dieu est un rigolo, ou que... Oui, mais quelle que soit la beauté de l'écriture de l'auteur, quelle que soit la grandeur de l'intelligence du philosophe qui l'a écrit, devant Dieu, ça n'est rien. Dieu ne s'en préoccupe pas. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Quel que soit ce que nous pouvons dire, ou quel que soit comment nous pouvons nous opposer à lui, il est Dieu. Et vous savez que, même dans la vie tous les jours, les gens qui ont une vraie autorité, ils n'ont pas besoin de le dire. Les gens qui ont eu beaucoup d'autorité, ils ne crient pas. Ils sont juste là, mais ils dégagent quelque chose qui fait qu'on les respecte. Eh bien, avec Dieu, c'est un peu la même chose. Dieu est tellement Dieu qu'il n'a même pas besoin de contester, de se battre avec nous. Il est Dieu. Qu'on ait envie, qu'on n'ait pas envie, qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord. Il est Dieu, et c'est pour ça qu'il est Dieu. S'il pouvait, ou s'il devait se justifier, ou s'il devait venir au tribunal chaque fois que nous l'appelons, s'il devait se battre, parfois aussi, les chrétiens sont tombés dans cet écueil-là. Parfois, on veut défendre Dieu. Hein, quand quelqu'un parle mal de Dieu, ou quand des gens insultent Dieu, ou dans d'autres religions aussi, on veut défendre Dieu. Comme s'il en avait besoin. Il est Dieu. Et son autorité est incontestable, même quand l'homme la conteste. Job reconnaît les limites de ses plans, des plans que nous faisons dans notre tête et qui sont parfaits. Il est dit dans la Bible, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Il y a beaucoup d'idées qu'on peut avoir, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Et vous connaissez aussi, on l'avait dit dans Jacques, cette exhortation de Jacques de dire, mais attention, quand vous parlez, ne dites pas, nous irons là-bas, mais dites, Dieu voulant, nous irons là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit Dieu voulant? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je reconnais mes limites. Je reconnais que je ne connais pas le futur. Je ne sais pas de quoi demain est fait. Ça, c'est Dieu qui tient ça dans sa main. Je ne sais pas où je serai demain. Je ne sais pas ce qui va arriver demain. Dieu tient ça dans sa main et je dépends de sa volonté. C'est ça, reconnaître ses limites. Je suis limité comme humain. Je ne suis que ça, mais Dieu, lui, est plus grand que ça. Job plus haut, avant Job 42, Job, à un moment donné, il est dit que Job dit, je mettrai ma main sur ma bouche. Parce qu'en fait, quand Dieu lui parle, Job dit, mais je mettrai ma main sur ma bouche, en d'autres termes, je vais me taire, parce que je n'ai rien à répliquer. Il reconnaît les limites de son plan. Oui, je reconnais que je ne suis qu'un homme, dit Job. Je ne suis qu'une créature, je ne suis pas Dieu. Je ne connais pas les secrets du fondement de la terre, mais toi tu les connais. Je ne sais pas par quel chemin se répand la lumière, mais toi tu le sais. Je ne connais pas le futur, mais toi tu le connais. Oui Seigneur, tu sais parce que ta connaissance est sans limite, toi dont le regard pénètre chaque espace de cet univers. Oui, tu connais la réponse à toutes mes questions. Parce que pour toi, les questions n'existent pas. Sois loué, mon Dieu, toi l'Éternel, l'Omniscient, le Tout-Puissant. Job reconnaît que Dieu est Dieu, qu'il est un humain. Et en cela, Job va faire preuve d'une attitude que la Bible appelle l'humilité, une profonde humilité. Il s'humilie devant Dieu, il s'humilie, il reconnaît. Vous savez que l'humilité, le mot humilité vient du latin humus, ou humus, ou hein, comme on peut l'utiliser, qui veut dire la terre. L'humilité, c'est ça, c'est cette conscience que nous venons de la terre, que nous ne sommes que de la terre, que nous ne sommes rien en fait. Cette profonde humilité. Job va avoir une attitude d'humilité devant Dieu. Il est conscient qu'il n'est qu'un humain, il vient de la terre et qu'il y retournera. C'est ce que nous sommes. La Bible dit que nous sommes une vapeur. Imaginez ça. Nous sommes une vapeur sur la terre. Au regard de l'histoire de l'humanité, nous sommes une vapeur qui vient et puis qui part. Et nous retournons à la terre. Et cette humilité permet à Job de ne pas se prendre pour ce qu'il n'est pas. On n'aime pas non plus les gens qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas, n'est-ce pas? On n'aime pas les gens qui disent qu'ils sont ceci alors que ce n'est même pas vrai. On aime les gens vrais. Eh bien, Job arrête de se prendre pour ce qu'il n'est pas. Il arrête de se donner trop d'importance. Et il confesse qu'il est fini, qu'il est déchu, qu'il est un simple homme. Il vient comme un humain devant Dieu, tout à fait conscient de ce qu'il est et de ce que Dieu est. Et puis, troisièmement, l'attitude de Job manifeste une attitude de repentance et d'adoration, en fait. Sa réponse, son attitude manifeste une repentance et une adoration devant Dieu. Il dit, Job 42, verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Alors en réalité, quand Job dit « Mon œil t'a vu », Job n'a rien vu. Parce que Dieu ne s'est pas montré, Dieu a juste parlé. Mais en réalité, cette parole de Dieu, quand Dieu s'est adressé à Job, les discours de Dieu à Job, ça a eu l'effet pour Job d'une rencontre avec lui. Mon œil t'a vu maintenant. J'ai été confronté à toi, j'ai eu ce contact avec toi, Père. Mon œil t'a vu. J'avais entendu parler de toi comme on parle d'un ami élevé. J'avais entendu parler de toi. On disait que tu étais comme ça. On parlait de toi. J'avais une idée de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Je t'ai rencontré. Job confesse qu'il a eu une rencontre avec Dieu, une rencontre personne à personne, une rencontre face à face avec Dieu. Il dit qu'il est passé de la théorie à l'expérience, de la théorie sur Dieu à l'expérience avec Dieu. Ce que nous sommes tous appelés à vivre. Parce que parler de Dieu, c'est très facile. Il suffit de prendre un bouquin de théologie et de dire tout ce qu'il y a à dire, c'est très simple. Mais Job parle d'une rencontre avec Dieu. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Et tous, nous en avons besoin. Notre vie chrétienne, elle commence par une rencontre avec Dieu. Elle commence par une rencontre avec Jésus. Ce qui inaugure notre histoire avec le Seigneur, c'est une rencontre avec Jésus. Mais ensuite, pour continuer notre vie, c'est encore un ensemble de rencontres. Nous sommes un peuple qui rencontre Dieu, comme on l'a lu au début de ce culte. Nous rencontrons Jésus et nous développons une relation avec Dieu. Et pour entretenir cette relation avec Dieu, nous avons besoin de rencontres. Nous avons besoin de rencontrer Dieu. C'est ça la vie de l'enfant de Dieu. Nous rencontrons Dieu. Nous ne sommes pas des gens qui parlent de Dieu, qui théorisent sur Dieu. Nous sommes des gens de la rencontre avec Dieu. Parce que c'est dans la rencontre que nous changeons. C'est dans la rencontre avec Dieu que Job a changé son attitude et qu'il se repent, qu'il a changé sa façon de penser. Nous sommes appelés à vivre des rencontres avec Dieu. Aller au culte pour vivre une rencontre avec Dieu. Et pour l'écouter. Lire la Bible pour rencontrer la pensée de Dieu. Quand nous lisons la Bible, nous rencontrons la pensée de Dieu. Prendre un temps de jeûne pour s'éloigner des distractions et pour s'approcher de Dieu. Pour mettre un temps à part pour Dieu. Prier pour discuter avec Dieu, pour rencontrer Dieu. Discuter avec les frères et sœurs pour entendre ce qu'ils ont vécu avec Dieu, ce que Dieu leur a dit, ce qu'ils ont compris de la parole de Dieu. Ainsi donc, nos vies doivent être des vies de rencontres. Et lorsque nous comprenons cela, alors nous ne voyons plus les disciplines spirituelles comme des devoirs ou des obligations. Tu dois lire la Bible, tu dois aller à l'église, mais comme des occasions pour rencontrer Dieu, pour vivre quelque chose du cœur à cœur avec Dieu. C'est notre appel d'avoir ce cœur qui recherche le contact avec Dieu, qui recherche l'intervention de Dieu, qui recherche le face-à-face avec Dieu. Parce que vous allez le voir, l'attitude de Job, elle a complètement changé quand il a rencontré Dieu. Et vous connaissez peut-être vous-même, peut-être que vous, avant de venir à Christ, vous aviez des grandes théories sur Dieu. Mais une fois que la rencontre vient, ça change tout. On peut rester dans la tête. Mais une fois que la rencontre vient, ça change tout. Et d'ailleurs, quand nous prions pour les personnes autour de nous qui ne croient pas en Dieu, qui ne sont pas à Christ, prions pour qu'ils aient des rencontres avec Dieu, une rencontre avec Dieu. Ce n'est pas seulement des arguments à mettre dans la tête de quelqu'un, mais c'est une rencontre avec Dieu. Il termine dans Job 42, verset 6, « C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Cette parole est une parole au travers de laquelle Job se repent, demande pardon, non pas pour les fautes qu'il aurait commises, parce qu'il n'a pas commis de faute, il n'a pas péché. La Bible nous a dit au début que c'est un homme intègre qui fuit le mal, qui fait la volonté de Dieu. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas une personne qui s'est fourvoyée. Mais en fait, Job se repent, il demande pardon à Dieu pour les paroles inconsidérées qu'il a dites, pour les paroles folles qu'il a dites, pour les paroles erronées, trop audacieuses qu'il a prononcées. Job se repent d'avoir demandé des comptes à Dieu. Job se repent de ne pas avoir accepté ses limites devant Dieu en voulant connaître les choses cachées. Job se repent d'avoir supposé que Dieu était injuste. Il demande pardon pour cela. C'était de la folie. Et donc, en fait, quand il dit « J'ai parlé de choses trop merveilleuses pour moi, je reconnais que tu peux tout, je reconnais que tu es sage », et en finalité, Job va avoir cette attitude qui est de dire « Je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre ». Donc, en réalité, c'est un geste, se répandre sur la poussière et sur la cendre, se mettre à terre, se mettre par terre, c'est un geste qu'on utilisait dans deux grands cas, le deuil, quand on est en deuil, et puis deuxièmement, pour la repentance. Quand, par exemple, le peuple jeûnait pour la repentance, alors on se mettait sur la poussière et sur la cendre, on se mettait au sol en signe de repentance. Et voilà ce que Job va faire. Il se repent devant Dieu, il dit « Seigneur, je suis désolé, j'ai vraiment dit n'importe quoi, j'ai pas compris qui tu étais, j'ai pas compris le Dieu que tu es, j'ai été trop haut, je me repens, je me couche sur la terre ». C'est un signe de deuil, mais c'est aussi une façon de montrer, de repentance, mais c'est aussi une façon de montrer qu'on est insignifiant, en fait, devant Dieu. C'est une façon de dire, mais Seigneur, je ne suis que de la terre, moi. Je ne suis rien de plus devant toi. C'est une attitude de reconnaissance, se mettre sur la cendre. Reconnaître la grandeur de Dieu. Il reconnaît que Dieu est grand, il reconnaît sa propre ignorance, il reconnaît ses limites. Et ce geste, en fait, fait aussi penser un autre geste qui est beaucoup présent dans la Bible et que Job fera au tout début du livre, c'est le geste de se prosterner. Se prosterner devant Dieu. On sait que dans l'Apocalypse, par exemple, quand on nous parle des anges, des êtres vivants qui sont au ciel, ils se prosternent devant l'agneau. Alors nous, se prosterner, on en a une vision très cadrée, on pense que se prosterner, c'est se mettre à genoux. Se prosterner, c'est se coucher de tout son long devant la personne, en geste de reconnaissance de l'autorité et de sa propre insignifiance. Job se prosterne devant Dieu dans un geste d'adoration, un geste de respect, un geste d'obéissance, d'amour, dans un geste dans lequel il reconnaît l'autorité, la grandeur de Dieu. Et dans tout cela, Job nous donne une image de la juste attitude devant Dieu. La juste attitude devant Dieu, d'être conscient de qui il est. Voilà à qui je m'adresse. Voilà qui je suis. Et ce n'est pas une attitude pour nous faire peur, parce que nous sommes, nous, en Jésus-Christ, des enfants de Dieu. Mais c'est une attitude pour ne pas se perdre sur qui est qui. Vous savez, par exemple, dans un travail, dans un métier, vous pouvez parfois avoir un collègue, un chef de service, par exemple, de qui vous êtes très proche. Un chef de service ou je ne sais pas comment, un contremaître, ou un directeur, ou un chef d'équipe, ce que vous voulez, et vous êtes très proche, vous vous tutoyez, vous vous faites la bise, vous rigolez, vous êtes proche, hein, vous faites des blagues, ah, oh, c'est marrant, mais c'est important de ne pas oublier qui est qui. Malgré le fait qu'on est proche et malgré le fait qu'on rigole, c'est important de savoir que c'est le patron, en fait. Et c'est ça que ça nous apprend, cette histoire de Job. D'apprendre à vraiment comprendre devant Dieu, devant qui nous sommes, et pour tout ce que nous sommes, quand nous prions et que nous demandons quelque chose à Dieu, n'oublions pas que nous parlons au Dieu de toute sagesse, de toute grandeur, de toute intelligence. N'oublions pas, lorsque nous souhaitons quelque chose, que nous sommes des êtres limités, que nous ne savons pas tout, et que lui sait, que lui est Dieu. Lorsque nous prions, ne lui demandons pas ce qu'il a à faire, ne lui disons pas ce qu'il a à faire, mais que soyons conscients que lui sait ce qu'il doit faire, que lui sait ce qui est bien. Et alors, dans cette conscience de la grandeur de Dieu, nous pouvons développer une relation bien ajustée, une bonne humilité devant Dieu. Vous savez que Dieu aime l'humilité. Dieu aime l'humilité. Il déteste l'orgueil et il aime l'humilité. Il aime que nous soyons fiers de notre position, joyeux d'être enfants de Dieu, mais profondément humbles devant lui, respectueux. Pour conclure, cette citation de C.S. Lewis. Alors, C.S. Lewis est un grand auteur chrétien, mais aussi c'est lui qui est à la base de le film Narnia, pour ceux qui connaissent, qui est un film qui part d'un livre et qui, en fait, a une couleur chrétienne, disons. une citation de ce grand auteur. Voici ce qu'il dit. En Dieu, nous nous heurtons à ce qui, à tous égards, nous est incommensurablement supérieur. En Dieu, nous nous heurtons à tous égards à ce qui nous est incommensurablement supérieur. Dieu est incommensurablement supérieur à nous. Si nous ne reconnaissons pas Dieu sous cet aspect, conscient que nous ne sommes rien en comparaison de lui, alors il nous reste inconnu. Aussi longtemps que nous persistons dans notre orgueil, nous ne pouvons pas connaître Dieu. Un orgueilleux regarde toujours de haut les choses et les êtres. Et bien entendu, aussi longtemps qu'on regarde de haut, et donc vers le bas, on ne peut pas voir ce qui est au-dessus de nous. Job nous montre le chemin pour une relation avec Dieu, dans laquelle nous renonçons à l'orgueil, à l'autosuffisance, à l'arrogance, et nous nous approchons humblement devant lui, et nous nous prosternons pour l'adorer, parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Amen. Prions. Seigneur, nous tournons vers toi et nous sommes heureux de ta parole. Merci parce qu'elle nous enseigne tellement de choses. Elle est tellement profonde. Tu nous instruis, tu nous conduis, tu nous parles. Et merci pour cela. Nous te disons merci et nous te prions, Seigneur, de nous aider. Tous nous avons besoin que cette contemplation de Job nous aide aussi, nous, à avoir la bonne attitude devant toi. L'attitude des enfants rachetés, pardonnés, régénérés, adoptés, mais d'enfants émerveillés, respectueux, admiratifs, comprenant qui tu es, comprenant ta sagesse, comprenant ta seigneurie et comprenant aussi le peu qu'ils sont. Seigneur, merci parce que ces enseignements, ce n'est pas pour nous brimer, ce n'est pas pour nous faire du mal, mais au contraire, c'est pour que nous puissions avoir une relation juste avec toi, joyeuse avec toi, profonde avec toi. Aide-nous les uns et les autres. Tu connais nos difficultés, tu sais, là où nous avons plus de mal, parfois du mal à accepter ta sagesse, à accepter tes plans, parfois du mal à comprendre ta puissance, parfois aussi, Seigneur, nous avons du mal à comprendre, comme Job, pourquoi nous souffrons, pourquoi c'est si difficile, pourquoi ça nous arrive à nous. Et tu connais les souffrances et les questions de nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, à grandir et à nous présenter devant toi dans la conscience de qui tu es, dans la conscience de ce que tu fais, et simplement de nous prosterner pour t'adorer, parce que tu es Dieu. Amen.